jusqu'à midi. L'heure de jeu.
Bon, on a du monde dans le studio, hein, Claire, bonjour.
Mais bonjour Florian, bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour Coraline, bonjour Sébastien.
Bonjour.
Bonjour.
On va vous proposer un fabuleux voyage, celui de la famille Sins. Et pour en parler, ben, on reçoit Sébastien qui est un passionné de photos et puis sa fille qui a vécu vraiment un magnifique voyage à l'autre bout du monde en Amazonie. On vous convie à partir avec nous. On va vous présenter un petit peu cette région de l'Amérique du Sud. Vous allez pouvoir jouer à nos différents jeux. Et puis, ben, on espère qu'on va vous faire voyager. Et c'est une matinée pleine d'évasion que l'on vous propose avec de magnifiques photos et des objets. Enfin, bref, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous et qu'on va vous apporter un petit peu de soleil. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on a envie au travers de cette émission. Sébastien, vous êtes, donc on l'a dit, un passionné de photos. D'ailleurs, sur RTN, vous avez le week-end passé réalisé les photos de Festineuche.
Tout à fait.
Et puis donc, voilà, vous êtes parti en 2019 avec votre famille du côté de l'Amazonie pour ce fabuleux voyage. Est-ce qu'on peut un petit peu faire une présentation de l'Amazonie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette région de l'Amérique du Sud?
Alors, c'est la plus grande forêt tropicale de la planète. C'est un puits de carbone, si on veut bien. C'est un endroit qui aide un petit peu à purifier l'air, hein.
On dit que c'est le poumon de la Terre aussi.
Voilà,
hein.
C'est un des poumons, parce qu'il y a l'océan aussi. C'est aussi une des plus grandes réserves d'eau douce de la planète.
Et puis, alors, il faut dire qu'elle recouvre quand même l'Amazonie, hein, par sa forêt tropicale. Elle couvre plus de 6 millions situés dans 9 pays. Hein. Il y a la Bolivie, le Pérou, la Colombie, l'Équateur, le Venezuela, la Guyana, le Suriname. Et puis la Guyane française et la plus grande partie se situe au Brésil. C'est dans cette forêt brésilienne que vous avez passé combien de temps?
On a passé 10 jours.
C'était pas trop court?
Si, très, trop court par rapport au voyage que ça fait.
Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous êtes arrivé dans cette forêt amazonienne?
L'odeur. Une odeur de forêt, c'est incroyable. Quand on vient de la ville, c'est quelque chose de fantastique de sentir ça.
Ça sent pas le pétrole, j'imagine.
Non, pas trop, non.
Et pour toi, Coraline, quelle a été ta réaction quand tu as mis le pied dans cette région de l'Amérique du Sud et que tu t'es retrouvée dans cette forêt?
Bah, ça fait un grand changement. On est en ville et tout d'un coup, on se retrouve dans une grande forêt.
Et est-ce que ça ressemble un petit peu à celle que l'on connaît ici ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Ouais, les arbres sont différents.
Ouais, c'est tout XXL là-bas.
Ouais, ça, j'imagine. D'ailleurs, on le verra sur les photos que vous nous avez importées. Mais pour l'heure, Florian, on va passer à notre premier jeu.
L'ère de jeu, le défi.
Alors, vous le savez, quand nous sommes en studio, le défi, c'est un défi photo. Vous nous envoyez vos photos par WhatsApp. Vous allez relever le thème, hein, nous dire quel est l'objet du défi aujourd'hui, Sébastien.
Alors, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on reçoive des photos de forêts.
Voilà, ça peut être des forêts exotiques, hein, des photos de chez nous. Enfin bref, on veut des forêts.
C'est aussi simple que ça. Et vous envoyez ça au 079
809
2020.
Jusqu'à midi. L'heure de jeu.
Vous avez vu la belle fougère derrière moi, elle est jolie. Hein,
belle photo, elle vient pas de chez nous, hein, celle-ci.
Non, les nôtres, elles sont beaucoup plus petites.
Et oui, vous pouvez suivre l'air de jeu en vidéo et découvrir les magnifiques photos prises par notre invité, Sébastien Sins. Photos que vous retrouverez cet après-midi sur notre site rtn.ch. On parle de l'Amazonie. En 2019, vous avez effectué ce voyage dans cette région de l'Amérique du Sud avec votre famille, Sébastien. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir dans cette région et dans la forêt amazonienne brésilienne?
Il y a quelques années, on a créé avec mon autre fille, Océane, une web TV qui parlait de l'environnement et de l'astronomie. Et on a eu l'occasion de rencontrer le président de l'association Aquaverde à Genève, qui est en lien directement avec le peuple Surui au Brésil. Et il nous a proposé que la fois où il viendrait en Suisse, ben, qu'on aurait l'occasion de le rencontrer. Donc il est venu à Peseux, chez nous. Et on a organisé une conférence publique, on a organisé une conférence pour les enfants de l'école des Guches. Et du coup, ben voilà, quand on a eu un premier contact avec une personne comme ça, on a envie de continuer de voir leur combat et comment ils vivent. Et puis, au lieu de le voir sur Internet ou sur des documentaires, on a envie de voir sur place. Donc c'est pour ça qu'on est parti.
Alors, dans cette région de l'Amazonie, j'imagine qu'il y a beaucoup de peuples indigènes.
Oui, il y en a beaucoup. Et puis, on ne connaît sûrement pas tous, parce qu'il y en a qui refusent le contact. Donc, il y a encore beaucoup de peuples qu'on ne connaît pas.
Et puis là, alors, le peuple que vous avez rencontré, c'est lequel ?
C'est le peuple Puyanawa. Il se trouve dans l'Acre, au nord-ouest du Brésil.
Et quelle est la particularité de ce peuple ?
Le peuple où on a été, c'est un peuple qui a été déplacé par les colons, qui ont été mis à l'esclavage. Les femmes devaient aller au champ, les hommes devaient aller chercher du caoutchouc dans la forêt. Les enfants ont été scolarisés, ils avaient l'interdiction de parler leur langue, de faire leur propre chant culturel. Vraiment, ils ont dû être comme les Portugais, quoi.
Et puis là, ils se sont un peu rebellés. Est-ce qu'ils ont essayé de revendiquer, eh bien, justement, leur culture ?
Alors maintenant, c'est ce qu'ils essayent de faire. Mais c'est vrai que les anciens qui ont vécu, qui connaissaient leur culture avant, ben, il n'y en a plus beaucoup. Donc c'est que vers les années 2000 qu'ils ont pu récupérer une partie de leur territoire. Il y a encore 10 000 hectares qui est aux mains du petit-fils du colonel Mancio Lima qui veut volontiers revendre, mais il veut un prix exorbitant. Et puis voilà.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
Ben là, on prend un grand bol d'air hein, en visitant un petit peu l'Amazonie ce matin avec nos invités. Cette forêt amazonienne, je ne vois pas Claire à pieds nus se balader.
Non, alors pas du tout.
La forêt de bestioles qu'il doit y avoir là-dedans.
Et oui, toujours avec nos invités Sébastien Sins et sa fille Coraline qui ont fait ce voyage. Hein, on vous le rappelle, en Amazonie, ils étaient dans la région brésilienne. Donc, c'est vraiment c'est au nord du Brésil, j'imagine.
Oui, au nord-ouest.
On vous voit faire un trek dans cette forêt amazonienne. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette balade en forêt ?
C'est en fait le peuple Puyanawa qui nous a organisé ce trek. C'était 10 km dans la forêt. C'est vrai qu'au départ, on n'était pas très, très rassurés. Hein. C'est pour ça qu'on a des longs pantalons, qu'on a des grosses chaussures. Parce que voilà, mais au fur et à mesure, on prend confiance parce qu'on fait confiance aussi aux gens du peuple qui nous emmènent dans ces endroits-là et qui connaissent très très bien la forêt et puis qui peuvent voir les dangers alors que nous, on les voit pas du tout.
Qu'est-ce qu'il y a comme bestioles que l'on peut craindre ?
Les araignées, les serpents,
tout ce que j'aime.
Le jaguar.
Oui,
c'est. Mais on n'a rien vu.
Il fait quoi comme température là actuellement où vous étiez là sur la photo c'est du genre 38-40 degrés
Non, pas autant. Non. Parce qu'en fait, là, c'était au mois de juillet-août, donc c'est l'hiver. Donc il fait 25-26 degrés.
Ouais, il fait froid pour eux. Quoi.
Voilà.
Et pour toi, Coraline, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce trek dans la forêt amazonienne ?
C'était long, mais c'était incroyable. On a pu voir plein de trucs.
C'est quoi qui t'a le plus marqué ?
Il y avait des plantes qu'on ne voyait pas en Suisse. Des énormes toiles d'araignées.
Et puis j'imagine.
Ah, mais des grosses araignées.
J'imagine que l'on voit aussi, il y a de l'eau, enfin, il y a l'Amazone.
Oui, il y a plein de petites rivières. C'est très humide.
Et les gens là-bas, ils vivent vraiment dans cette forêt amazonienne. Est-ce qu'il y a des petits villages ? Est-ce qu'il y a des villes aussi ?
Alors là, c'est un village, hein, les Puyanawa. Je crois qu'ils sont 1000. Ouais, je crois qu'ils sont même pas 1000 dans ce peuple. Donc voilà, c'est. Mais leurs maisons sont situées tout autour, au bord de la route, qui amène chez eux. Et ils ont à côté la forêt, mais ils sont pas vraiment à l'intérieur de la forêt.
Et ils vivent de quoi ces gens ?
Alors les Puyanawa, ils sont réputés dans leur région pour la farine de manioc. Donc, ils produisent la farine de manioc et ils ont des magasins en ville qui vendent ça pour eux. Autrement, ils ont créé une pisciculture vers chez eux, donc ils produisent leurs poissons.
L'artisanat aussi, hein,
l'artisanat,
vous avez...
exactement, oui.
Voilà, on en a quelques objets. La langue là-bas, c'est quoi, le brésilien, le portugais?
Non, c'est le portugais brésilien, et ils ont leur langue ancestrale, quoi, culturelle.
Et vous parliez comment avec eux?
Avec les mains.
Ça, c'est vraiment le langage universel, hein.
Tout à fait, oui. On avait quelques personnes avec nous qui pouvaient traduire. Mais c'est vrai que c'est un gros handicap quand on va dans un endroit comme ça, puis qu'on ne peut pas communiquer avec les gens.
C'est un peu frustrant.
C'est pour
hein.
ça que je me suis mis au portugais, parce que vu qu'on veut partir l'année prochaine, il faut que je puisse me débrouiller un petit peu tout seul.
Obrigado.
Bon courage.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Toujours avec nos invités, Sébastien Sins et sa fille Coraline, qui ont réalisé un rêve. On peut dire que c'était un rêve hein, que de partir en Amazonie. Et c'est en 2019 que vous êtes partis en famille. La forêt amazonienne, c'est quelque chose qui vous a tenu à cœur. C'est pour ça que vous avez choisi cette destination-là.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était un rêve depuis quelques années. De voir justement ces plantes XXL, d'espérer voir aussi des animaux, tout ça. Donc oui, c'était un rêve.
Alors justement, du fait que vous faites de la photo, c'était aussi un petit plus?
Ça, c'est sûr. Et puis c'est vrai que quand on est passionné de photo, d'arriver dans un endroit comme ça, des gens aussi, dans ce peuple qui sont magnifiques, c'était pas difficile de faire des belles photos.
Et c'était le rêve de papa ou bien de Coraline et papa?
Les deux.
Comment s'est passé l'accueil? Comment les gens vous ont reçu?
Incroyable. C'est vraiment un truc de fou. On pourrait penser que justement, les Européens, enfin les Blancs qui les ont persécutés pendant des années, qu'ils s'en méfient. Et là, pas du tout. On est arrivé à 1h du matin là-bas. On nous attendait. Des membres étaient là pour nous accueillir. On a mangé la pastèque, nos hamacs étaient déjà préparés, tout ça, donc on a pu aller se mettre au lit rapidement. Et le lendemain matin, on nous a accueillis dans une grande maloca, la maloca sacrée.
C'est quoi?
C'est une grande maison traditionnelle qu'ils ont là-bas, qui fait un peu un triangle comme ça. Et on a eu droit à un discours de bienvenue du grand chef. Et après ce discours, les gens sont venus les uns après les autres nous prendre dans les bras. Nous souhaiter la bienvenue, c'était vraiment très émouvant.
Ça aurait dû être très marquant, hein, oui. des choses comme ça. Alors justement, cette forêt amazonienne, est-ce qu'il y a encore des gens qui... On pense notamment à Raoni, hein, avec le chanteur Sting. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui, justement, se battent pour la préservation de cette forêt amazonienne?
Oui, il y a beaucoup d'associations qui essayent de protéger ces espaces verts, de protéger ces peuples, parce qu'ils sont en première ligne. Hein, quand justement les déforesteurs, les orpailleurs arrivent sur un territoire, nous on a l'exemple du peuple Sourouy, avec qui on a aussi beaucoup de contacts, et c'est un combat de tous les jours pour protéger la frontière de leur terre, pour empêcher les déforesteurs de venir et de prendre le bois, de déforester.
Il y a encore quand même un petit peu des endroits un peu verts quand même.
Oui, bien sûr. Et c'est vrai que les Sourouy sont dans l'état du Rondônia, qui est un des plus touchés par la déforestation. Et si on va sur Google Earth, par exemple, on peut voir que tout est blanc, donc la déforestation. Et il y a un espèce de carré au milieu qui est complètement vert, et c'est le territoire Sourouy. Donc ils arrivent à quand même empêcher les gens de venir, mais ils risquent leur vie tous les jours.
Oui, alors j'imagine que tous ces peuples indigènes se battent pour leur territoire.
Leur territoire, c'est leur survie, parce qu'ils ne peuvent pas aller vivre en ville. C'est ce que beaucoup dans le gouvernement aimeraient, c'est que ces gens puissent intégrer la ville pour pouvoir avoir accès aux terres qui sont encore vierges, pour aller chercher les minerais, le bois, pour développer l'agriculture, pour le soja, pour la viande. Donc oui, c'est un gros combat.
L'air de jeu, avec Claire et Florian.
On revient évidemment dans l'Amazonie, dans ce studio. On aurait pu apporter quand même quelques sapins pour faire un petit peu la décoration ce matin.
Il n'y a pas beaucoup de sapins dans la forêt amazonienne. Est-ce qu'on vous a dit un petit peu ce que c'était que les essences que l'on trouve dans la forêt amazonienne?
C'est des feuillus. Beaucoup de feuillus, mais après les noms des arbres, un peu barbares.
J'imagine bien.
Il n'y a pas les épineux là-bas.
Non.
Par contre, si vous nous suivez en vidéo, eh bien, notre invité a une magnifique coiffe. Vous pouvez nous expliquer quelle est cette coiffe?
Alors, il s'agit d'un cocard, qui est le cocard du chef Souroui, d'un village Souroui, que nous avons eu la chance d'invité au mois de mai et qui m'a fait l'honneur de me donner sa coiffe.
Waouh, elle est faite en quoi? Il y a quoi?
En plume de perroquet.
Oh, c'est joli.
Ouais.
Et alors, c'est un petit peu ce qui distingue le chef du peuple indigène, c'est sa coiffe, ou tout le monde porte une coiffe?
Tout le monde peut en avoir une. Simplement, je pense que le chef, elle est un petit peu plus volumineuse.
Voilà, pour qu'on le reconnaisse.
Voilà, ouais.
Et puis justement, vous avez amené aussi un petit peu ce que fabrique ce peuple des Payawana. Alors ici, par exemple, dans les mains, c'est quoi que j'ai?
Ça, c'est des bagues.
Waouh! Elles sont faites en quoi?
Elles sont faites à partir de noyaux d'un fruit.
D'accord. Et ouais. ils font ça... Vous les avez vus un peu travailler leur...
Non, ça j'ai pas vu. Parce que ça, c'est aussi de l'artisanat Souroui. Donc on n'est encore pas allé chez eux. Ça sera pour l'année prochaine.
C'est très joli.
Par contre, ceux-ci, c'est avec des perles. Et ça, c'est chez les Puyanawa. Ouais. Donc et c'est puis, la différence entre les deux peuples dans l'artisanat.
Et puis le collier que tu as devant toi, Coraline.
Ouais, c'est des graines. C'est des graines aussi.
D'accord. Et puis là, vous avez.
Ça, c'est un bracelet qui est fait aussi avec le noyau du fruit. Et le blanc, c'est du tatou.
C'est quoi du tatou?
C'est un animal assez petit et puis qui a une carapace.
Ah oui, 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 oui. Ouais. Et puis ça, oh Florian, ça vous irait bien comme bavette, ça.
Je vous remercie pour la bavette.
Non, mais c'est très joli. À quel moment est-ce qu'il porte ce genre de bijoux? C'est pour certaines cérémonies?
Tous les jours, ils peuvent mettre cet artisanat. Mais c'est vrai que, par exemple, les Puyanawa, nous, on a été pour le festival. Donc, ils sont vraiment avec leurs jupes aussi en paille, les peintures corporelles et puis tout l'artisanat.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Bonjour Ricardo.
Bonjour.
Mais bonjour Ricardo, comment allez-vous?
Bonjour Claire, très bien, merci.
Mais c'est cool. Vous avez déjà une destination pour vos vacances 2024 ou vous restez du côté de la Chaux-de-Fonds?
C'est probablement le sud de l'Italie.
D'accord, c'est votre région d'origine?
Moi, je suis un peu plus haut, je suis né à Rome.
Ah, magnifique ville, hein. Ah là,
oui.
La ville éternelle. Il y a beaucoup de choses à voir aussi à Rome.
Exactement.
Est-ce que vous êtes déjà...
Mais c'est très chaud en été, hein.
Oui, oui, c'est, oui, d'accord. Est-ce que vous êtes déjà allé en Amérique du Sud?
Oui, je suis allé au Brésil, mais pas en Amazonie.
D'accord. Eh bien, on verra si ça va vous porter chance. Voici le jeu que vous avez choisi.
L'air de jeu, le blind test.
Je vais vous proposer trois extraits musicaux. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui, oui.
Alors, quel chanteur a fait une adaptation plutôt humoristique du titre de Chico Buarque? Voici la version française.
Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux filles, elles veulent toujours m'emmener coucher dans leur famille. Et leur mari disait de moi.
C'est pas Pierre Pé.
Comment?
Marcel Amon?
Non, c'est pas Marcel Amon, c'était Pierre Vassiou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, de ce chanteur. C'était en 1973, quelque chose comme ça. Allez, on passe au deuxième extrait. Quel est le titre de cette célèbre chanson dont voici juste l'intro, mais à mon avis, vous avez certainement dansé sur ce titre.
Dalapada, oui.
Mais ouais, collé, serré. Attention, voici ma dernière question. À quel chanteur doit-on ce titre, paru en 1983 ? Alors, un chanteur français qui a sorti en 83 ce titre. Alors, je vous écoute, vous me dites.
Le titre, c'est amazonien.
Non, mais on veut le nom du chanteur. Ouais. Vite, il faut me donner la réponse. Vous ne l'avez pas ?
Je ne sais pas.
C'était sais plus. Yves oublié. Simon.
Mais oui, bien sûr.
Il chantait Diabolomante aussi. Vous vous souvenez de cette chanson, Diabolomante ? Eh bien voilà, vous avez eu l'honneur de jouer avec nous. C'était très sympa de vous avoir sur RTN, Ricardo. On vous souhaite d'ores et déjà de belles vacances. Profitez bien, ramenez-nous un petit peu du soleil de l'Italie.
Merci à vous.
Au revoir, belle journée.
Au revoir.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Toujours avec nos invités, Sébastien Sins et sa fille Coraline, pour parler de l'Amazonie. Alors, il y a bien sûr le fleuve Amazon. Vous avez une anecdote par rapport à une balade sur l'un de ces cours d'eau ?
Oui, une fois que le festival était terminé, ça a duré 5 jours, et bien on a pris...
Festival de quoi ?
Justement des traditions Puyanawa. Donc c'est des danses, des chants, des jeux qui font eux, puis qui montrent un petit peu aux gens qui sont
là. Voilà, c'est une attraction touristique.
Quand on a été, c'était le troisième, donc c'était plus des personnes de la région. Nous, on était un peu les seuls étrangers à être pour ce festival. Mais maintenant, ils sont en train de développer justement parce qu'ils se sont aperçus que ça pouvait ramener un petit peu d'argent. Donc voilà.
Et ensuite, alors, vous étiez à bord d'une pirogue.
Voilà, après, on est parti de cet endroit-là. Et on a pris la pirogue, on a fait 7 heures de pirogue pour remonter le fleuve Moa. Et on est arrivé chez le peuple Nukini, c'est le peuple jaguar, qui est en plein cœur de l'Amazonie. Donc c'est incroyable, quoi. C'est vraiment beau, c'est d'un silence incroyable.
C'est les photos que l'on voit derrière nous.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Les maisons du peuple jaguar, comme la bête.
Tout à fait. Ils se sont appelés comme ça parce que justement, il y a beaucoup de jaguars dans cette région-là. C'est un peu montagneux et puis il y a beaucoup de ces animaux qui sont dans le coin. Et ça, c'est un endroit où on a dormi 2-3 jours. C'était vraiment super, quoi.
Et puis alors, l'anecdote par rapport à votre balade sur le Moa.
Après, on a repris la pirogue pour aller voir des chutes. Et quand on est arrivé au bord, je suis sorti de la pirogue. Et pour attendre que les autres descendent, je suis resté statique. Et tout d'un coup, j'ai senti les jambes commencer à être brûlantes, plein de piqûres. Et puis en fait, j'avais plein de fourmis rouges qui étaient en train de me monter les jambes.
Ça fait pas du bien, ça.
Non, c'est vraiment pas très agréable. Et c'est vrai que là, le chef qui était avec nous, il a bien rigolé. Puis il m'a dit, ouais, bah, tu vas souffrir pendant en tout cas une demi-heure, trois quarts d'heure.
Oh là 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 là.
C'est les fourmis feu, c'est vraiment... Ouais, pas bien leur nom.
Jusqu'à midi. L'air de jeu.
Jusqu'à midi, on est dans les fourmis rouges, les fourmis feu. Ça me rappelle de mon souvenir. Une fois au Brenet, on était allé faire une petite fondue au bord du lac des Brenets. Et puis, il y a une copine qui s'est installée, qui s'est assise par terre. Elle n'a pas vu qu'elle s'était assise sur un espèce de nid de fourmis rouges. Et ben, elle a fini dans le doux pour les enlever.
J'imagine. Nos invités ce matin pour parler de leur voyage en Amazonie, c'est Coraline Sins et son papa Sébastien. Alors, on est très gourmands hein, ici à RTN et puis c'est vrai qu'on aime bien un petit peu découvrir des cuisines du monde. Alors, quelles sont les spécialités, justement par exemple, des peuples de l'Amazonie ? Qu'est-ce que vous avez mangé de bon ou pas ?
Ouais, la nourriture, c'est pas facile. Il y a très peu de légumes. Parce que pour eux, les légumes, c'est un médicament, donc ils ne mangent pas trop ce qui est vert. Donc c'est beaucoup de la viande, du manioc, des patates douces, du poisson. Mais voilà, ça, ça, ça s'arrête un peu là, le poulet.
Oui, j'imagine que le poisson, ça doit être bon.
Oui, il y a des poissons très bons et il y en a
un peu moins
parce qu'ils sont pleins d'arêtes, donc un peu compliqué, mais autrement, non, on a mangé un très bon poisson d'ailleurs.
Tu as une anecdote, Coraline, par rapport à une photo. On voit un jeune homme avec un gros poisson.
Bon, en fait, on était en pirogue et il y a un poisson qui sort de l'eau et qui tape toutes les épaules de tous ceux qui étaient dans la pirogue. Et à la fin, il arrive sur ma tête. Et puis, justement, après, il continue puis il va jusqu'au fond de la pirogue. Et puis là, il y a un Indien qui prend le poisson, qui lui met les doigts dans les yeux. Et puis après, ils l'ont mangé le soir.
C'est quoi, une espèce de poisson volant ou...
Non, je pense qu'il a peut-être été effrayé par l'arrivée de la pirogue. Et puis il a sauté de l'eau au moment où on arrivait.
Et puis
c'est vrai qu'il a fait un peu toutes les épaules des personnes qui étaient devant pour arriver en pleine figure de Coraline.
Mais il était bon celui-là, il a mangé.
Je ne l'ai pas goûté moi.
on a des photos aussi où on te voit te baigner. Ça fait comme une espèce de petite cuvette. Vous pouvez nous expliquer où c'est que c'est ?
Ah, ça c'est lors du trek justement, des 10 km qu'on a fait dans la forêt. Et à un moment donné, on a été accueillis par des membres justement du peuple qui nous attendaient, qui avaient préparé le feu, le poisson. Et puis, il y avait possibilité de se baigner puisqu'il y avait la petite rivière qui était à côté.
Qu'est-ce que tu as pensé de cette baignade en pleine forêt amazonienne, Coraline ?
Au début, je n'étais pas très rassurée.
Tu avais peur des bestioles ?
Oui, un peu. Mais après... après, j'y étais, puis c'était trop bien. Parce que l'eau, elle était un peu chaude, elle était vraiment bien.
Et puis, il n'y avait pas de poisson, là.
Non.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
On continue de parler ce matin, justement, de l'Amazonie, de ses poissons, de sa rivière, enfin, de ses rivières, puisqu'il y en a beaucoup. Comment est-ce qu'on se sent quand on revient en Suisse ?
Très bien. c'est vrai que c'est difficile... de se reconnecter à la vie d'ici.
Ça, j'imagine.
C'est vrai.
Et justement, vous avez eu un chef qui a eu l'occasion de venir en Suisse. Qu'est-ce qu'il en a pensé de notre pays, de la région ? Qu'est-ce qu'il a le plus surpris ?
Alors nous, on avait prévu de lui faire visiter le Creux du Vent, d'aller à Chaumont, le Chasseral, faire la descente de la Reuse. Et puis quand on lui a posé la question qu'est-ce qu'il aimerait faire, il nous a dit « je veux voir des châteaux et de l'architecture ». On s'est dit « oups
». Ils avaient prévu leur programme tous les jours, tout est tombé dans une minute. Là.
Voilà, c'était un peu ça. Ben, après, c'est vrai quand on y réfléchit, on se dit « c'est vrai que c'est logique ». Eux, la nature, ils vivent dedans tout le temps. Donc, ils ont envie de voir autre chose quand ils vont ailleurs.
Il a eu quand même l'occasion de voir un petit peu nos forêts. Qu'est-ce qu'il en a pensé ?
Oui, il l'a vu, on a fait une torée aussi, donc il a pu voir notre tradition ici.
Avec le cervelas
Avec le saucisson.
Avec le saucisson.
Ouais. Non, il a trouvé la Suisse magnifique.
Et qu'est-ce qu'il a pensé des forêts de la région ? Il était surpris, il y a des choses qui l'ont surpris ?
Non, pas forcément, non. C'est vrai que vu qu'on n'est pas trop allé en forêt, il n'a pas pu vraiment réagir sur nos forêts. Mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de châteaux. On a fait le château de Valangin, le château de Neuchâtel, la collégiale. On a été à Chillon. Donc il était très impressionné par ces architectures.
Coraline, quand vous êtes partie là-bas en 2019, tu avais 11 ans. Tu as côtoyé des jeunes de ton âge. Comment s'est créé ces liens d'amitié ?
Au début, c'était compliqué parce que du coup, il y a toujours la barrière de la langue. Mais du coup, j'ai pu communiquer quand même assez bien, mais avec les gestes. Puis du coup, on s'est un peu précompris comme ça.
Le body language, ça sert ça.
Est-ce que tu as gardé des contacts avec certaines personnes ?
Non.
Eh ben oui, je pense qu'eux, ils ont pas les technologies comme nous avons.
La petite copine qu'elle avait sur place...
Elle avait
9 ans. Donc ils n'ont pas le Natel, il n'y a pas possibilité d'avoir des contacts avec WhatsApp. Ouais.
Effectivement. Et puis alors, on a vu aussi que tu as participé à une séance de peinture sur corps. Quelles sont les significations de leur peinture ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce qu'on vous a expliqué un petit peu le pourquoi de ces peintures ? C'est traditionnel.
Oui, c'est des peintures traditionnelles et c'est leur ressenti quand ils voient une personne, ils ont une inspiration et ils peignent ça sur le corps. C'est un fruit, hein. Le noir, c'est le Jenipapu, et puis le rouge, c'est l'Urukum. C'est des fruits, c'est d'ailleurs quand on a fait notre trek de 10 km, là, on arrive vers un arbre, il nous a donné un fruit, puis on mettait juste le doigt dedans, et puis on pouvait se
maquiller.
Se maquiller, ouais.
Est-ce qu'ils sont toujours avec leur peinture ou c'est seulement pour les grandes occasions?
Non, c'est pas une obligation d'être tout le temps avec les peintures, c'est surtout quand ils ont des rituels ou des fêtes. Mais souvent, en tout cas les jeunes, ils sont très souvent avec, en train de se faire des peintures.
Et ils ont quoi comme genre de rituel? Des rituels qui vous ont peut-être marqué? Dans les danses par exemple, parce qu'il y a des photos où on voit ce peuple indigène en train de danser.
Oui. Ce qui m'a surpris, c'est justement que quand ils font des danses, ils mélangent jamais les hommes et les femmes. Et les enfants. Donc il y a toujours, quand ils tournent en rond, par exemple, ils font un cercle, il y a toujours les hommes à l'extérieur, à l'intérieur, devant eux, il y a les femmes, et à l'intérieur, il y a les enfants.
Et comme s'ils protégeaient un petit peu la famille, en fait.
C'est possible, oui.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Sébastien Sins, Coraline Sins, vous nous racontez votre fabuleux voyage qui vous a d'ailleurs marqué, hein, vous gardez de beaux souvenirs. Il y a ce fameux rituel où les hommes ont leur coiffe, il y a les peintures. Là, on voit une photo où ils ont des bâtons. C'est quoi ce cérémonial-là?
En fait, ils sont dans un endroit où il y a des énormes arbres. Et puis... quand ils chantent, parce que là, ils chantent aussi, et puis ils font le rythme avec les bâtons. C'est incroyable le son qu'il peut y avoir à cet endroit-là. On a l'impression d'être dans une église. Il y a une résonance, c'est incroyable. Ouais, ça nous a beaucoup interpellés de se dire qu'il y a un son pareil au milieu de ces arbres.
Et les chants qu'ils font, qu'ils interprètent, c'est dans leur langue de leur...
Oui, c'est dans la langue Puyanawa. Et en général, c'est en lien avec la terre, la nature, les animaux, tout ce qui est important pour eux.
Voilà, ben oui, parce que c'est un peu leur ressource, hein. C'est leur habitat aussi, cette forêt amazonienne. Et eux, alors, les Puyanawana, c'est comment leur habitat, leur maison?
Alors nous, on était logés dans des petites malokas, donc comme j'ai dit au début, c'est des petits triangles là. C'est très sympa, mais c'est vrai que c'est des nids à araignées. Ouais, alors ça, c'était la surprise la première nuit où on est arrivé pour aller dormir, c'est que la nuit, elles sortent. Donc il y en avait des centaines et des centaines sur le pourtour de cette maloka et elles sont aussi un peu à l'intérieur. Donc quand on veut ouvrir la porte, là, on l'ouvre et on se recule pour ne pas prendre une araignée sur la figure. Donc, parce qu'en plus, on ne savait pas trop si... c'est pas des migales, hein, c'est une autre sorte d'araignée. Non, on ne savait pas trop si elles n'étaient pas très sympathiques. Et puis, il y avait justement la maloka à côté de nous, des représentants du peuple Suruï qui étaient là. On a été leur poser la question, puis ils nous ont dit « Non, elles ne sont pas très sympas. » C'est des araignées sauteuses.
Quel souvenir tu vas garder, Coraline, de ce voyage? Est-ce qu'il y a un souvenir vraiment marquant que tu te rappelleras tout au long de ta vie?
Ouais, le poisson.
Qu'elle n'a pas mangé.
Ouais. Non. que j'avais porté un bébé paresseux.
Oh, c'est trop chou.
Oui.
Les animaux, il y a quand même des animaux que vous avez pu approcher là-bas? Des gentilles bestioles?
Non, pas trop. On n'en a pas trop vu. On a vu quelques singes quand on était sur le fleuve. On a vu aussi des serpents passer à travers le fleuve.
C'est moins sympa.
C'est les seuls vraiment qu'on a vu. Coraline était un peu déçue parce qu'on n'a pas vu de perroquet. Mais on nous a expliqué justement que ce n'était pas la période.
Et je pense que justement, à cette époque-là, les animaux ne sont pas forcément tous dans la forêt.
Oui, et puis ce qu'il y a, c'est que... justement, avec la déforestation, ça coupe les corridors où les animaux peuvent passer. Puis tout d'un coup, vu que ça a été arraché, coupé, les animaux se retrouvent prisonniers d'un côté et ils n'osent plus traverser. Donc, c'est aussi un gros problème pour ça.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Bonjour Nicole.
Bonjour, bonjour Nicole.
Bonjour.
Vous êtes notre gagnante du défi. Alors, décrivez-nous la photo. On la verra bien évidemment cet après-midi sur notre galerie photo. Alors, décrivez-nous la photo que vous avez prise.
Bah, c'était lors d'une balade au Lechental. Mm-hmm. C'était magnifique. Et puis, voilà, je me suis dit que ça valait le coup de faire la photo. Donc, voilà. Puis ça, je me suis dit ce matin que ça valait le coup de vous l'envoyer. Donc,
en plus, vous avez pris beaucoup d'arbres qui sont malheureusement un peu en voie de disparition, là, des mélèzes.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais voilà.
Et alors, pourquoi vous avez choisi cette photo d'un commun accord, hein, Sébastien, avec votre fille Coraline?
Justement parce que c'est des. J'ai vu les mélèzes qu'on ne voit malheureusement plus trop.
Parlez plus près du micro.
Voilà. Plus trop d'ici. Et puis on voit les Alpes derrière. Donc c'était une jolie photo, bravo.
En tout cas, on remercie toutes les personnes hein, qui ont envoyé des photos. On a des photos de la Grèce, de l'île Maurice également. Enfin, et vous, ma chère Nicole, s'il y a un pays que vous pourriez visiter une fois, ce serait lequel?
Pourquoi pas le Brésil?
Ouais.
Ça va, vous changez du loc, là, Nicole.
est-ce qu'il y a un pays que vous avez déjà visité, dont vous gardez de bons souvenirs?
La Tanzanie. Ah oui, le Sri Lanka.
Ah ouais, vous avez bien voyagé quand même.
Oui, ben un petit peu.
On vous souhaite une bonne suite de dimanche et profitez bien.
Eh bien, merci beaucoup et puis bon dimanche à tous.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Au revoir, Nicole.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
La forêt amazonienne, un voyage que vous avez réalisé là-bas qui vous a laissé de beaux souvenirs. Vous avez encore plein d'étoiles hein, dans les yeux. Cette forêt amazonienne, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est quand même en bonne voie ou c'est de pire en pire?
Alors, ça va déjà mieux que sous l'ère Bolsonaro. Mais c'est vrai que c'est encore pas folichon. Quoi. Là, j'ai vu un article où il y a 1700 départs de feu qui ont été recensés durant le mois de juin. Donc, on n'a encore pas fini, mais il y a déjà 1700 feux qui sont partis.
Et ils sont intentionnels?
Ils sont criminels, bien sûr. C'est pour pouvoir élargir leur champ. C'est les agriculteurs qu'il y a dans le coin qui boutent le feu. Et puis, comme le dérèglement climatique se fait sentir aussi en Amazonie, on a vu début de l'année des monstrueuses inondations dans le sud. Maintenant, la forêt amazonienne souffre du chaud, de la sécheresse. Et puis, quand ils mettent du feu pour nettoyer leur brouillis qu'ils font dans leur champ, ça met le feu à la forêt. Et puis, avec ça, ils peuvent agrandir leur terre.
Au détriment, finalement, de tous ces peuples indigènes, en fait.
Tout à fait.
Et alors, justement, ça vous a touché et vous avez créé une association.
Oui, en 2019, on a créé Amazon avec le NE à la fin pour Neuchâtel. Comme on a des petits moyens pour le moment, on essaye plutôt de faire de la sensibilisation ici.
Et de quelle façon?
En organisant justement des conférences, quand on a la chance que d'autres fondations ou associations font venir des membres de peuples indigènes en Suisse. Donc nous, on profite de les faire venir jusqu'à Neuchâtel et on fait des petites conférences pour les élèves, ou pour le public, on organise des balades en forêt avec ces peuples-là. Donc c'est toujours des belles expériences et on aide actuellement un membre du peuple Sourui qui a décidé de construire une pépinière de plantes médicinales pour essayer de sauvegarder les plantes médicinales de son peuple. Il en a 50, je crois, pour le moment. Et puis, il aimerait arriver à ses 60 qui entrent dans la composition des médicaments qu'ils ont traditionnellement chez eux.
Est-ce que les gens sont encore sensibles à justement cette forêt amazonienne?
Je pense. C'est vrai que là, on a organisé au mois de mai une torée. On a eu une cinquantaine de personnes qui sont venues. Et ils ont été assez généreux pour ça.
Et toi, cette forêt amazonienne, elle t'a laissé un bon souvenir, mis à part les petites bestioles?
Oui. Oui, c'est incroyable.
Et l'année prochaine, vous envisagez de retourner là-bas? Ce sera la même destination ou vous avez envie de voir autre chose?
Non, là justement, on va se diriger du côté de chez les Surui, c'est l'état qui est à côté des Puyanawa. Les Puyanawa sont dans la craie et là on sera dans le Rondonia. Ça sera autre chose, ils sont moins évolués si on veut bien que les Puyanawa. Donc ça sera une belle surprise, un beau voyage.
Pas oublier de leur apporter les Toblerone chez nous. Hein.
La fondue peut-être, parce qu'ils aiment bien la fondue.